France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Peut-être que vous vous êtes réfugié au bureau pour prendre le frais. Aujourd'hui, d'habitude, il fait moins 12 dans ce studio. Pour une fois, j'ai pas râlé pour qu'on appelle la clim, mais il faudra bien affronter la soirée d'abord et puis la nuit où la température, vous le savez, ne va pas descendre comme elle le devrait. Parce que la nuit, la campagne se rafraîchit, pas la ville, et c'est vrai que c'est infernal. Vous avez vos systèmes D, n'hésitez pas à nous en faire part. Chez moi, comme il n'y a pas de volet, comme dans beaucoup de vieux appartements parisiens, il y a un ventilo. Et comme vous, j'imagine qu'il faudra toujours un peu de temps pour que le ventilo ventile autre chose que de l'air chaud. Peut-être que vous avez la clim, on en parlera. Est-ce que la clim, c'est le mal? Est-ce qu'il faut culpabiliser pour la planète et l'énergie que ça consomme quand on habite sous les toits? On sait mieux faire. On sait que végétaliser, c'est efficace. On sait que capter l'eau de pluie, ça marche. On sait que les toits blancs, c'est efficace. Demandez aux îles méditerranéennes. On sait que les cours intérieurs, les puits de végétation, les mouches à rabier, ça marche aussi. Demandez à l'architecture arabe. On sait construire des bâtiments traversants, sans couloirs qui attrapent les chaleurs. Les écoles aimeraient bien toutes être sur ce modèle-là. Est-ce que la Seine ou la Garonne ou le Rhône peuvent aider à rafraîchir les villes? Mais oui, la Seine en tout cas refroidit les bâtiments comme le Louvre, donc là aussi on sait faire. Nous progressons dans nos villes, on ne va pas dire que rien n'est fait. La prise de conscience, elle a commencé plus ou moins après la canicule de 2003. Les préoccupations écologiques et où les fréquences des épisodes de canicule ont fait le reste, mais c'est vrai que ça reste difficile. Pourquoi avons-nous toujours le sentiment depuis des années que nous ne sommes pas préparés aux gros épisodes de chaleur? La question, bien sûr, c'est le temps pour s'adapter, c'est aussi l'argent. Les solutions possibles sont-elles toutes de long terme ou peut-être de moyen terme? Est-ce à dire qu'on n'a pas fini d'avoir chaud dans nos villes? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, vous êtes à Saint-Ouen et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, vous allez bien?
Eh ben, je vais bien, on vous écoute. Il fait pas nous ça va, on a une bonne clim à la radio, je dois le dire.
Ok, très bien. Bon, et puis vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais appelé, je vous avais parlé du restaurant chez Huguette à Saint-Ouen. Donc je vous attends toujours pour aller dîner avec vous et Pierre, etc.
Voilà. Eh ben écoutez, avec plaisir, rendez-vous chez Huguette. Allez, Olivier, on vous écoute.
Bon, sinon, pour parler sérieusement... Bon, pour moi, il faudrait qu'on, d'un point de vue urbain, enfin, imaginons qu'on construise une ville à partir de rien et qu'on considère que la superficie de cette ville, on la divise en parcelles de 1 hectare et que sur ces 1 hectare, on disperse des bâtiments de 4-5 hectares, de 4-5 étages, pas plus, qu'on dissémine un peu à l'image de la cité jardin qui va être détruite, je crois, à 80% à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Et je veux dire, en faisant ça, on se promènerait dans une ville qui ressemblerait plus à une espèce de campagne urbanisée, c'est-à-dire que vous verriez davantage d'arbres que de bâtiments, et pour accéder aux bâtiments depuis les rues, ben vous marcheriez sous les arbres dans une espèce de clairière ou de sentier.
Bah ouais,
donc et... pour moi c'est peut-être ce qu'on pourrait faire de mieux. Et maintenant, quant à Saint-Ouen, je veux dire, le maire, enfin bon, même si je suis quelqu'un de gauche, il faudrait lui donner des leçons d'architecture, parce qu'allez-vous promener à Saint-Ouen du côté des docks et de près du boulevard Victor Hugo, je veux dire, honnêtement, on pourrait appeler l'artillerie de Poutine et de Netanyahou, leur dire, si vous avez des choses à péter, allez-y, je vous parle pas de tuer les gens, on va tout détruire et on va reconstruire autre chose.
Voilà, peut-être voilà un poil radical, et surtout, ne détruisons pas chez Huguette, c'est aussi ce que j'ai retenu de votre...
Laissons-la tranquille.
Olivier, merci beaucoup, merci pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Vincent Viguier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur de l'école des ponts et chaussées au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Il y a aussi Grégory Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Lyon, maire Les Écologistes de Lyon. Vincent Viguier, pour rebondir sur ce que dit notre ami Olivier, bien sûr, il a raison. Si on pouvait recommencer de zéro, ce serait formidable. La grande difficulté, c'est qu'il faut jouer sur l'existant, quoi.
Ben, effectivement, c'est ça. En fait, on sait faire des villes adaptées à des climats très différents les uns des autres. Par exemple, si on prend le climat projeté pour Paris à la fin du siècle... disons dans des scénarios de réchauffement médian, c'est à peu près le climat du sud de l'Espagne. Mm-hmm. Et ben, on sait faire des villes adaptées au climat du sud de l'Espagne. Il y a quand même deux difficultés, hein. La première, c'est que c'est quand même un tout petit peu plus dur que ce qu'il y a eu auparavant, parce qu'il faut faire une ville qui soit adaptée au climat du sud de l'Espagne demain. mais adapté au climat parisien d'aujourd'hui, et adapté entre-temps à tous les climats intermédiaires. Donc, il y a quand même un petit challenge technique qui est différent de ce qu'on a pu voir par ailleurs, mais à la limite, ça, on sait faire. Mais surtout, comme vous l'avez dit, le vrai enjeu, c'est les bâtiments existants. Les bâtiments neufs, c'est qu'une toute petite fraction du stock de bâtiments, et les bâtiments qu'on construit aujourd'hui ne représenteront qu'une fraction des bâtiments demain. Et tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des bâtiments qui ont été faits pour un climat qui n'est plus le climat que nous vivons, et encore moins celui qu'on va vivre demain.
On va demander à Grégory Doucet ce qu'il en pense et comment il fait à Lyon. Juste une dernière question là-dessus, Vincent Viguier. Si on construit même dans une grande ville, là, un immeuble qui sortirait de terre, qu'il soit à Paris, à Lyon, à Grenoble ou ailleurs, est-ce qu'on sait aujourd'hui faire un bâtiment frais sans la clim?
Alors, oui, on sait faire des bâtiments frais sans
comment
la clim.
Comment on fait un bâtiment frais? Enfin, c'était ça ma question, en fait. Qu'est-ce qu'on met dans les murs?
Alors, il y a différentes méthodes. En fait, ça dépend beaucoup, disons, des caractéristiques, de la durée pendant laquelle il fait chaud. C'est-à-dire un climat où il fait frais l'hiver et chaud l'été, c'est pas la même chose qu'un climat où il fait chaud tout le temps. Et du coup, les recettes, c'est par exemple avoir une grosse inertie des murs, comme je sais pas ce qu'on peut avoir dans les églises. Hein, typiquement, quand on est dans une église, il fait frais parce que ça garde le froid qu'il a pu y avoir avant dans l'année. Il y a des questions de ventilation, des questions d'ombre, des questions par exemple, je sais pas, les patios. Typiquement, l'idée d'avoir un patio, c'est vous avez une zone qui est tout le temps à l'ombre, parce qu'elle est entourée de hauts murs ou de bâtiments, ce qui fait qu'elle ne chauffe jamais vraiment. L'air froid restant près du sol, ça fait une poche d'air frais. Puis, si en plus on a une petite fontaine ou des plantes, ça rafraîchit. Donc voilà, des choses comme ça, on sait faire. Alors, par contre, ça a effectivement une efficacité qui, à un moment, est limitée, alors que la climatisation, elle, permet d'être sûr à 100% qu'on sera frais.
Grégory Doucet, est-ce qu'on peut, quand on est maire d'une grande ville comme Lyon, est-ce qu'on peut, à un moment, prendre des formes de directives? Enfin, je vous demande, est-ce qu'on peut, parce que forcément, les promoteurs sont aussi des promoteurs privés, hein, la ville ne peut pas tout, mais est-ce qu'on peut dire, et est-ce que vous le dites, vous, désormais, dans ma ville, voici les normes de construction qu'il faudra avoir, et ces normes devront lutter contre la canicule. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? On peut dire ça? Vous le faites ou pas?
Alors, bonsoir déjà.
Bonsoir à vous.
Pour répondre très rapidement... Les normes, elles sont déjà très nombreuses dans le domaine du bâtiment et de la construction. Ce qui est important, c'est de convaincre tout le monde d'aller dans le même sens. Donc, on va plutôt travailler sur avec les professionnels sur l'identification de solutions très concrètes. Votre auditeur, il disait peut-être qu'on pourrait faire table rase et repartir de zéro. Bon, dans les villes, bien sûr, c'est pas possible. On va déjà faire avec le déjà là. Et donc, le vrai enjeu, c'est d'adapter déjà les bâtiments existants. Se dire quand même que sur les 20-30 prochaines années, plus de 80% de l'habitat, c'est du déjà là. C'est pas des nouvelles constructions. Donc, on a une priorité à adapter ce qui existe déjà. Donc, l'un des enjeux que l'on a devant nous pour l'habitat, c'est bien évidemment la rénovation thermique, parce que là, on parle du confort d'été, de lutter contre les grosses chaleurs. Il faut aussi penser, bien évidemment, comme l'évoquait votre intervenant précédent, à toutes les saisons. On a encore un hiver, en particulier à Lyon, donc il faut pouvoir avoir du confort d'été et du confort d'hiver. Et là, on parle de l'habitat, mais il faut aussi penser à tous les bâtiments publics, les écoles, les crèches, les équipements sportifs et culturels. Et ceux-là aussi, il faut bien sûr les adapter.
Mais quand on est maire d'une grande ville comme vous, par exemple, vous parlez des écoles, on a tous entendu, je ne sais pas, peut-être vous aussi, ce matin, 7h50 sur France Inter, par exemple, l'architecte Éric Daniel Lacombe nous racontait l'école idéale et comment elle peut être et qu'elle mettra les enfants au frais, ce qui est formidable. Et après, il y a un principe de réalité, Grégory Doucet, vous ne pouvez pas refaire toutes vos écoles, en fait. Et donc, à un moment, quand on vous dit, il faut installer la clim parce que les enfants n'en peuvent plus, est-ce que vous dites, oui, il faut installer la clim? Enfin, le principe de réalité dit aussi ça ou pas?
Alors, sur les 207 écoles qu'on a à Lyon, il y en a un tiers sur cette mandature qui ont subi des très très gros travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique et thermique qui nous permettent d'apporter du confort et d'hiver et d'été. Et alors, pas nécessairement avec de la clim, avec des brasseurs d'air, avec ce qu'on appelle du rafraîchissement adiabatique, c'est-à-dire qu'on utilise de l'eau. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais Et la clim peut être une option, bien évidemment. Enfin, moi, j'ai rien particulier contre la climatisation. L'idée, c'est de faire en sorte que, bien évidemment, on puisse rester dans des températures raisonnables. Mais il faut avoir bien en tête que ça va nécessiter des investissements considérables. Mmh.
Et vous avez raison de le souligner, Grégory Doucet, et c'est ça, Vincent Veillet, tout à l'heure en introduction, je parlais à la fois du temps, c'est-à-dire pour rénover, si on ne parle que des bâtiments publics, des écoles, des crèches, etc. Et donc, il faut du temps, hein, je ne sais pas si c'est pas du court terme, c'est du moyen terme et c'est même du long terme, et il faut aussi de l'argent. C'est le nerf de la guerre et on n'est pas sûr d'y être aujourd'hui pour dire les choses très clairement sur cette envie d'investir, y compris d'investir en cas de très grosse chaleur.
Effectivement, et comme le disait Grégory Doucet, hein, déjà, sans détruire un bâtiment et le reconstruire, en isolant, enfin par des travaux, on peut faire énormément de choses et isoler très très bien un bâtiment face au froid et face au chaud. Par contre, ce qui est très difficile, c'est d'agir dans l'urgence au moment où il y a une canicule. C'est-à-dire, si on vit dans un logement dans lequel il n'y a pas eu ce type de travaux, dans lequel il n'y a pas eu d'isolation face à la chaleur, et qu'on se retrouve brusquement à subir une canicule, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, si on peut essayer de mettre des volets en urgence, mais ce n'est pas forcément simple. Et là, la climatisation se pose.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on a cette conversation à chaque fois qu'il y a un épisode canicule, au fond? Alors, on progresse, je le disais tout à l'heure, bien sûr qu'on progresse, on ne part pas complètement de zéro. Mais néanmoins, à chaque fois qu'il y a un épisode, on se dit comment ça se fait qu'on est en retard. Donc, ça veut dire qu'on n'avance pas quand même, Vincent Viguier, ou pas?
Mais effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en France, globalement, très en retard sur nos objectifs d'isolation des logements, que ce soit face au froid ou face au chaud. Mmh. De la même manière que, c'est par exemple ce qu'a bien montré le rapport du Haut Conseil pour le Climat, qui est sorti il y a quelques jours, qu'on est relativement en retard par rapport à une très grande partie de nos objectifs environnementaux. Celui-ci en étant un parmi d'autres.
Il y a, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des isolants biosourcés et que les isolants biosourcés pouvaient d'ailleurs fonctionner pour le chaud comme pour le froid. Chez nous, par exemple, on a refait dans l'immeuble dans lequel j'habite, on est en train de faire l'isolation. Je peux vous assurer que personne nous a parlé d'isolants biosourcés. C'est aussi ça la question que je me pose, en fait. Est-ce que l'isolation, quoi qu'on en dise, l'isolation au chaud, de toute façon, reste un impensé? Ça commence doucement à rentrer. On imagine qu'on va peut-être les faire rentrer d'ailleurs dans les DPE, mais pour l'instant, l'isolation au chaud reste un impensé ou pas?
Alors, ça dépend. Donc, déjà, si on prend ce qui est fait notamment par les municipalités, donc la mairie de Lyon a un très bon exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'isolation face au chaud, des bâtiments publics, par exemple. Pendant longtemps, effectivement, le confort d'été ne faisait pas partie des réglementations thermiques. Ça a changé il y a quelques années. Et le confort d'été ne rentrait pas dans les diagnostics de performance énergétique, dans les DPE. Mais ça change.
Toujours pas. On en parle, mais toujours pas.
D'accord. Et effectivement, ça fait partie de cette question plus globale, qui est que on a un manque d'anticipation par rapport aux impacts climatiques. Alors, les choses évoluent. Par exemple, en France, vous avez eu au niveau national la sortie du nouveau plan national d'adaptation il y a quelques mois qui fait avancer les choses, mais beaucoup de travail reste à faire. Et comme vous l'avez dit, le problème, c'est qu'en fait, les canicules ne sont pas un événement exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'on n'est pas complètement sûr qu'il y en aura chaque année. On ne sait pas à quelle date ça va venir, quelle durée elles vont avoir. Mais c'est plutôt l'été normal aujourd'hui que d'avoir des canicules. Et du coup, le fait d'être surpris par ça, le fait qu'il y ait autant d'écoles ou autant de logements qui soient des passoires thermiques par rapport à la chaleur, c'est un défaut de politique publique et d'anticipation vis-à-vis de cet enjeu.
Est-ce que, Grégory Doucet, vous avez l'impression qu'on est en train de le surpasser doucement, cette impensée du chaud par rapport au froid, ou est-ce qu'il reste encore un chemin considérable à parcourir?
Alors, moi, je vais vous répondre pour Lyon, Madame Sintès, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un impensé, bien au contraire. Ne serait-ce que sur les écoles, dont je parlais tout à l'heure, tous les travaux qui visent à améliorer les performances thermiques des bâtiments scolaires, c'est un quart du budget d'investissement de la ville sur cette mandature, c'est 320 millions d'euros. Alors, quand on parle en millions d'euros, on sait pas toujours ce que ça représente, mais c'est des sommes considérables pour faire en sorte qu'il y ait du confort d'hiver et d'été. Donc, c'est pas du tout un impensé. Par contre, ça nécessite effectivement des choix structurels, des choix de matériaux. Vous parliez des matériaux biosourcés. C'est par exemple ce vers quoi on s'oriente de plus en plus aussi, tout simplement parce que c'est une façon aussi de capturer du carbone et que de ce fait, ça c'est aussi bon globalement pour travailler sur l'atténuation du climat. Mais n'oublions pas qu'il faut travailler tout autant sur les espaces publics que sur les bâtiments. Il faut aussi rafraîchir les villes, vous le disiez en introduction, en végétalisant massivement. À Lyon, on a regagné 14 hectares d'espaces de nature sur le bitume depuis le début du mandat. Et d'ici à la fin de ce mandat, c'est 30 hectares qui auront été récupérés. Et ce sont bien évidemment des arbres plantés. Et de ce fait, c'est de la fraîcheur, c'est de l'ombre supplémentaire. Alors pas encore suffisamment parce qu'il faut que les arbres poussent, bien évidemment. Mais c'est aussi des sols perméables qui recueillent de l'eau de pluie. Et de cette façon, on rafraîchit la ville.
On y viendra à la désimperméabilisation, effectivement. Est-ce qu'on peut faire avec l'eau aussi, puisque chacune de nos villes en France est traversée par des fleuves et par de l'eau? Je voudrais d'abord qu'on écoute Adama. Bonsoir Adama.
Bonsoir.
On vous écoute.
Comme j'avais dit tout à l'heure au standard, je viens du Sénégal, ça fait un moment que je vis en France. Après, les remarques qu'on a, certains constats, et les manières de construire. On est en train de chercher de visiter des maisons, mais c'est des chambres de je ne dirais même pas 12 mètres carrés, on te dit 12 mètres et tout. Et qui fait que nous, ce qu'on a au Sénégal, c'est beaucoup plus grand, plus espacé. On a une cour, c'est pas que seulement appartement, même ici quand on te dit maison, oui, tu as 100 mètres carrés et ce qui est habitable, c'est les 30 mètres carrés ou 40. Indépendamment, les bureaux, comment c'est fait aussi, c'est cette notion d'espace.
Merci.
La vie sociale d'or. Et la question que j'avais aussi par rapport à tout ça,
allez-y,
c'était ce qu'on nous renvoie à chaque fois, pas plus tard que cet après-midi en réunion DRH, des gens qu'on suppose interlocuteurs, qui me posent la question, ah mais vous ne souffrez pas de cette chaleur, vous êtes habitué. Alors que moi, de 2003 du moins à maintenant, tous les étés que je vis en France, que je passe en France, je souffre tellement de cette chaleur que ce n'est même pas la même chose que j'ai à Saint-Louis au Sénégal. Et j'aimerais bien qu'on essaie de me répondre à cette question. Pourquoi à chaque fois on nous renvoie ça? Vous êtes habitué, vous n'en souffrez pas.
Eh ben, alors c'est une vraie bonne question, Adama, en effet, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne souffriez moins de la chaleur. Mais la raison pour laquelle peut-être, et il a tellement raison, Adama, Vincent Viguier, si on en souffre moins au Sénégal d'où il vient, ben c'est parce qu'on a construit en fonction d'eux, tout simplement. On a des choses à apprendre de ce que font évidemment les pays qui sont déjà des pays écrasés de chaleur.
Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est des choses qui sont intégrées maintenant dans de l'architecture, dans des bâtiments neufs, que ce soit au niveau des bâtiments, au niveau de l'aménagement des villes. Mais un autre point également, c'est que il n'y a pas que le cadre bâti, il n'y a pas que les bâtiments ou l'urbanisme qui jouent. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont reliées aux réglementations et aux habitudes. Les horaires de travail, le type de vêtements que l'on porte, les habitudes de ce qu'on fait en extérieur ou pas, tout ça, ça joue énormément. Ne serait-ce que si on compare à l'Espagne, par exemple, c'est bien connu que les horaires de travail en Espagne sont assez différents, enfin, les habitudes sont assez différentes de ce qu'on a ici. Et en termes de réglementation, par exemple, vous avez vu, alors, il y a quelques semaines, une évolution de la réglementation en France dans le cas des travaux en extérieur. En cas de chaleur, donc sur les interruptions de chantier, sur qui paye, par exemple, si jamais il y a une interruption de chantier en cas de canicule et comment protéger les gens, et ce genre de choses est nécessaire. Et c'est aussi ces différences de réglementation, d'habitudes et de culture qui sont importantes.
Est-ce que ça se réfléchit à l'échelle d'une ville, ça, Grégory Doucet? Parce qu'il a raison, Vincent Viguier, ce qu'il faut repenser, c'est évidemment la manière dont on vit à l'intérieur d'une ville qui souvent est bétonnée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que Adama a tout aussi chaud que n'importe qui d'autre, parce que c'est le matériel autour, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc il y a le bâti, il y a tout ça, et puis il y a notre manière de vivre. Est-ce que ça se réfléchit à l'intérieur d'une ville, ça, cette manière de vivre? Est-ce qu'on peut se dire parfois, on va devoir changer de rythme, et soyons l'exemple, nous changeons de rythme à Lyon.
Oui, bien sûr, notamment pour un certain nombre de métiers de la fonction publique territoriale, donc à la ville, on peut adapter des horaires en commençant plus tôt et du coup en terminant plus tôt pour éviter la chaleur qui a tendance à s'accumuler, notamment l'après-midi. Mais ce n'est pas possible pour tous les métiers.
Bien sûr, ouais.
Je pense en particulier aux professionnels, par exemple, qui travaillent justement dans les écoles, dont on parlait tout à l'heure, une ATSEM, elle doit accompagner bien évidemment le travail de l'enseignant ou de l'enseignante jusqu'à la fin, jusqu'à 16h45. Et donc là, c'est difficile de pouvoir adapter, sauf si on a, si on s'autorise à avoir peut-être plus de flexibilité. D'ailleurs, il y a une convention citoyenne qui est aujourd'hui en cours, vous le savez, et qui réfléchit sur les temps scolaires.
Le temps scolaire, ouais.
Et je pense que peut-être de croiser les regards de la précédente convention citoyenne sur le climat, qui a malheureusement pas été suffisamment écoutée, mais qui a fait des propositions, avec aujourd'hui les réflexions de cette nouvelle convention citoyenne, nous amènerait peut-être à envisager certains aménagements qui nous permettraient de mieux vivre ces périodes de forte chaleur.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On vous écoute Olivier.
Écoutez, moi je suis passionné par le débat. Moi je suis co-gérant d'un bureau d'études énergétiques et environnementales dans le sud de la France. Et j'ai appelé parce qu'une personne chez vous parlait effectivement de ce qu'il faut diaboliser les clims, est-ce qu'il faut peindre nos toits en blanc à Paris, ainsi de suite.
Oui.
Ce que je disais, c'est que c'était pas des solutions uniques qu'il fallait entrevoir, il fallait voir plutôt quelque chose de plus global. Hein. Et qu'avant tout, nous, en fait, on conçoit déjà, alors soit en rénovation, soit en conception de bâtiments neufs, effectivement, des bâtiments qui d'abord se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que sans équipement, sans technique, sans consommation d'énergie, il faut déjà qu'ils répondent aux besoins, et notamment, là, on est sur l'été, donc de ne pas avoir trop chaud l'été. Et quand on n'y arrive pas, parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, hein, notamment dans des EHPAD ou dans des hôpitaux, on peut dépasser 26-28 degrés sur certaines périodes caniculaires, et ben effectivement, il faut mettre quelques équipements techniques plus ou moins compatibles, plus ou moins polluants, pour répondre à des besoins. Ce que je disais aussi tout à l'heure à la personne au téléphone, c'est que malheureusement, alors nous on fait des études très techniques là-dessus, mais ces études ne sont pas souvent demandées, missionnées dans les appels d'offres. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande juste que le bâtiment soit conforme à la réglementation thermique, sauf que la réglementation prend très 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 mal en compte l'adaptation au changement climatique et notamment le confort d'été. Il n'y a qu'en faisant des simulations, ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques ou énergétiques dynamiques, mais ça c'est des compétences qu'on appelle en plus, qui ont un coût, et qui sont jamais assez appelés, qui permettent d'anticiper très tôt en fait comment le bâtiment va vivre et de trouver les bonnes solutions dès la conception. Mmh. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on a dit tout à l'heure, on arrive à faire des écoles en France et même dans le sud de la France, hein, sur Nice, sur Marseille, on fait des écoles dans des climats compliqués, avec des fichiers météo très très caniculaires à Arles, à Avignon. Pourtant, c'est des écoles qui n'ont pas de clim et qui sont très confortables parce qu'on a utilisé des techniques vernaculaires, parce qu'on les a bien conçues. Et on sait faire ça en France et on sait faire ça aussi dans d'autres pays. C'est juste que des fois, on n'appelle pas ces compétences-là comme il faut. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Il a raison. Olivier, on reviendra sur la clim avec notre auditeur suivant dans un petit instant, Vincent Viguier. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il y a un ensemble de possibilités, effectivement, en fonction du lieu où nous sommes, en fonction du type de bâtiment dont on parle, en fonction de l'urgence ou pas de l'urgence. En fait, il faut pas voir les choses comme quelque chose qui serait plaqué, en fait, qui dirait « là, voilà la solution ».
Non, effectivement. Et comme l'a dit la personne qui est au micro, il faut pas diaboliser. Enfin, le concept de diaboliser, de manière, ça a peu de sens. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire sans climatisation et qui ont énormément d'intérêt. Parce que lorsqu'il y a de la climatisation, ça signifie des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas faibles. Ça signifie aussi des choses qui peuvent tomber en panne ou des coupures de courant qui peuvent entraîner des risques importants, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas si jamais on a des systèmes de rafraîchissement liés à l'isolation, il y a de la ventilation, il y a des choses comme ça.
On va l'entendre, Hervé, sur la clim, et justement, donc on pourrait y revenir. Bonsoir, Hervé.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je vous appelle d'Alsace. On subit aussi la chaleur.
Quand il fait chaud, il fait chaud.
Oui, quand il fait chaud, il fait chaud ici. Je revenais à 2003. Ouais, 22 ans en arrière, canicule, je sais plus combien de morts en France. De l'autre côté de la frontière, ils disaient en Allemagne, parce que j'ai des amis, on va souvent en Allemagne, ils disaient, en Allemagne, on a isolé. En France, à l'époque, on disait déjà climatisé. J'entends les mêmes propos tenus par le FN, hier ou avant-hier, comme quoi il fallait tout climatiser. Les centrales nucléaires, une est à l'arrêt. Le Rassemblement National, je reviens vers eux, mais c'est eux qui ont posé un amendement, j'ai pas très bien compris, pour supprimer, arrêter, en tout cas les panneaux solaires et les éoliennes. Donc je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On va pas très loin.
Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, il n'y a pas que le Rassemblement National, puisque c'est François Bayrou ce matin, le Premier ministre, qui a dit qu'il faudrait essayer de climatiser au moins cher possible et au maximum. Est-ce qu'on s'est dit, Vincent Viguier, les avantages et les inconvénients? Les avantages, on voit bien qu'effectivement, on est un peu plus au frais. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied si on se mettait tous à avoir un appartement climatisé? Qu'est-ce que ça dit en termes de CO2, par exemple? Et du coup, il fait plus chaud dehors, en fait. Donc, à la fin, on ne s'est pas beaucoup aidé. Est-ce qu'on sait dire ça ou pas?
Alors, effectivement, donc, la climatisation, c'est quelque chose qui est très efficace pour rafraîchir. Ça permet d'éviter des impacts sur la santé, ça permet d'éviter des impacts sur l'économie. Mais comme vous l'avez dit, et puis beaucoup en introduction tout à l'heure, ça a beaucoup d'effets très négatifs. Des effets très négatifs. Le premier, c'est la consommation d'énergie, consommation d'électricité. Alors, en France, on a de la chance d'avoir une électricité qui est relativement décarbonée. Donc, les émissions liées à la consommation d'électricité ne sont pas forcément gigantesques comparées à d'autres pays, mais comme elles sont là. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même dans une optique dans laquelle on essaye d'électrifier le plus possible d'usages, par exemple les voitures, et que du coup, à un moment, on va quand même se poser la question de la compétition entre ces usages. Et que plus on consomme l'électricité au global, plus c'est dur de l'avoir décarboné, parce que les gisements, à un moment, sont limités. Donc, première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier non plus que à l'intérieur d'un climatiseur, vous avez un fluide frigorigène, un produit chimique utilisé pour faire le froid, qui sont... Alors, il y a plusieurs technologies, mais en général, c'est des HFC qui ont un pouvoir réchauffant plusieurs milliers de fois plus important que le CO2, à poids équivalent. Alors, tant que le liquide reste dans le climatiseur, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il y a une fuite ou si en fin de vie, le climatiseur est mal, n'est pas parfaitement bien recyclé, le liquide va dans l'atmosphère et, vu le pouvoir réchauffant, ça contribue au réchauffement climatique de manière assez importante. Par exemple, en France, l'ADEME estime qu'en moyenne, sur un climatiseur, l'effet dû au fluide frigorigène est deux fois plus important que les émissions liées à la consommation d'électricité. Donc, deuxième chose. Troisième élément, et comme vous l'avez mentionné au début, un climatiseur doit rejeter de la chaleur quelque part. Et du coup, si vous avez un climatiseur dans une maison isolée ou dans une maison d'un quartier peu dense, périurbain par exemple, c'est pas très grave. Par contre, dans une zone dense dans laquelle il y a beaucoup de logements, l'addition de tous les rejets de chaleur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable.
Grégory Doucet, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent la question. On a beaucoup remis ça sur le tapis ces derniers temps, sur l'idée de blanchir les toits, de changer de les peindre en blanc, comme les villes effectivement espagnoles ou les villes grecques savent le faire. Ce qu'on entend beaucoup dans les villes historiques, c'est le cas de Paris, c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de tant d'autres, c'est de dire, oui mais attendez, on va dénaturer la ville. Comment on fait pour, quand on est maire, pour jouer sur cet entre-deux, c'est-à-dire préserver la carte postale, tout en se disant, il y a peut-être un certain nombre de choses sur lesquelles auxquelles il faudra renoncer. Et notamment, renoncer, ça veut dire peut-être les toits en zinc à un moment, quand on pourra le changer, etc. Est-ce que cette question, elle se pose ou pas? Est-ce qu'on pousse derrière les monuments historiques, en quelque sorte, pour leur dire, il faut nous autoriser plus de choses parce que les temps ont changé?
Oui, alors déjà, on peut dire que les architectes des bâtiments de France sont eux-mêmes aujourd'hui pourvoyeurs de solutions et ont envie, bien évidemment, aussi que les bâtiments soient préservés, parce qu'il faut aussi se dire qu'un bâtiment qui est exposé à de très très fortes chaleurs, il peut aussi se dégrader davantage. Donc en fait, on a intérêt, si on veut préserver notre patrimoine, à aussi le faire évoluer. Aujourd'hui, on a par exemple, en utilisant certains enduits isolants, on le voit ici à Lyon, qui sont tout à fait autorisés par les ADF, la possibilité d'améliorer les performances thermiques d'un bâtiment. Mais finalement, dans votre question, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'il n'y a pas une solution unique. Oui, ici, ça peut être la climatisation. Là, ça peut être un toit qu'on va peindre en blanc. Mais ça va être aussi, comme l'exprimait votre auditeur Olivier tout à l'heure, au travers de la combinaison de matériaux, de la structuration du bâtiment. Il y a tout un ensemble d'éléments. Tout à l'heure, je parlais aussi tout simplement de la présence de la nature en ville, parce que les arbres apportent de l'ombre, apportent aussi du rafraîchissement dans l'espace public. C'est tout ça. Il faut réussir à combiner l'ensemble des solutions qui sont à notre disposition. Et s'il vous plaît, ne sautons pas sur la première, je ne vais pas dire fausse bonne idée, mais la solution unique qui serait soi-disant la panacée. Non, ça n'existe pas. Oui, il faut, pour revenir à votre question sur la climatisation, il faut aussi de la climatisation ici et là. D'ailleurs, moi, par exemple, demain, je fais la gratuité des musées à partir de 12h à Lyon, parce que les musées sont climatisés et vu la durée de la forte période de chaleur que nous vivons aujourd'hui, notamment, je pense aux familles pour les enfants qui n'ont pas classe demain, c'est la possibilité de venir se rafraîchir pendant 2 heures et se cultiver en même temps.
Et c'est important d'ailleurs, peut-être que vous le faites à Lyon, c'est bête et méchant, hein, mais c'est d'indiquer les points frais dans les villes en fait, de pouvoir dire, là il y a un musée, c'est un point frais, là il y a aussi une fontaine, là il y a une aire de jeu qui est végétalisée, donc allez-y, indiquer les points frais, mais exactement comme dans certaines villes du Québec, on indique les endroits où on peut se réfugier quand il fait trop froid justement. Est-ce que ça aussi, il faut le faire rentrer dans la signalisation en fait, Grégory Doucet, tout simplement, ça a l'air bête et méchant, mais oui. Point frais, ça dit quelque chose.
Alors, on a établi une cartographie, nous, des lieux de fraîcheur sur la ville. Alors, il y a des lieux publics, je parlais des musées, les bibliothèques, bien sûr. On a un certain nombre de mairies d'arrondissement aussi qui ouvrent des lieux, des salles de fraîcheur. Et puis, il y a des lieux privés, ça peut être ici un centre commercial, ça peut être un cinéma. Et donc, on les a cartographiés. La cartographie est accessible sur le site internet de la ville, de manière à ce que, eh bien, on puisse aller faire baisser un peu la température du corps momentanément. Et tout ça vient s'inscrire dans un plan de réponse à une période de canicule, parce que aller se rafraîchir, c'est important. Mais tout le monde n'a pas forcément non plus la possibilité ou le réflexe de le faire. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à l'heure où je vous parle, on a des travailleurs sociaux du Centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, qui appelle les personnes qui sont identifiées sur un fichier des personnes vulnérables et qui demande, est-ce que ça va, est-ce que monsieur, madame, est-ce que vous êtes bien hydraté, est-ce que vous avez de quoi vous nourrir ce soir, parce qu'on peut avoir des situations, vous savez, où les personnes fragiles, je pense notamment aux seniors, qui très très rapidement, finalement, parce qu'elles n'ont peut-être pas un entourage familial suffisant, se retrouvent très isolées et en difficulté, et il faut aller vers elles.
J'ai une question très précise pour vous, Grégory Doucet, qui nous vient de Christelle sur WhatsApp, et qui dit, est-ce que le maire de Lyon peut nous dire ce qu'il compte faire avec la tour de la Caisse d'Épargne et ses milliers de fenêtres qui reflètent le soleil et créent beaucoup de chaleur en ville ?
Oui, alors c'est pas forcément un sujet prioritaire. Je vous avoue que aujourd'hui ma préoccupation c'est plutôt ce qui se passe dans les lieux publics. Je pense notamment aux écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires ou aux crèches, sur lesquelles on a un suivi quotidien pour savoir si aujourd'hui eh bien et demain il sera encore possible d'y faire classe.
Mais ce que ça veut dire, pardonnez-moi Grégory Doucet, c'est que on a très longtemps construit des tours, on a très longtemps construit du verre. C'était comme ça qu'on construisait, c'est comme ça qu'on faisait les bureaux. C'est comme ça qu'on trouvait que ça rendait aussi la ville belle à certains égards. Est-ce que là aussi, on se dit, ben, c'est fini. Ça, c'est une architecture d'il y a 20 ans, en fait. On ne peut plus construire aujourd'hui des choses tout en vitre parce que c'est terminé à cause des épisodes de canicule.
Alors, je vais vous dire, c'est pas, moi, je ne suis pas architecte ni ingénieur des bâtiments, mais je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Votre intervenant dans le studio pourrait vous donner probablement plus d'éléments, mais c'est la combinaison des matériaux, c'est la façon dont on structure un bâtiment, c'est comment est-ce qu'on le rafraîchit parfois avec des techniques vernaculaires, enfin très anciennes, très maîtrisées. Ça peut être effectivement lié à la hauteur du bâtiment, mais pas que. Aujourd'hui, on est capable de faire des tours de 15-16 étages avec une conception qui permet de maintenir une température relativement tempérée, que ce soit en hiver comme en été, sans nécessairement faire appel à de la climatisation, parce qu'on fait appel à des techniques de circulation d'air, on met en place un grand puits canadien, enfin pour entrer un peu dans la technique, et de cette façon, on arrive à rafraîchir.
On va retourner au standard, vous allez pouvoir répondre à ça, Vincent Villiers, vous allez nous expliquer effectivement si on peut toujours faire des grandes tours et qu'on sait les rendre frais. Je voudrais d'abord qu'on écoute Brigitte qui est dans l'Aveyron. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je rebondissais un petit peu là face à tout ce que j'entends. C'est vrai que, enfin, moi je me dis, les canicules, il y en a déjà eu. Il y a eu celle de 2003 qui était quand même énorme, et puis si on remonte dans le temps, il y en a eu. Et à chaque fois on refait, on reparle, et si. Et là, ben, on va faire si, mais ça parler, moi je dis toujours de cette maudite clim que l'on veut mettre, parce que c'est peut-être une réponse bien rapide au problème, et c'est quand même de voir l'existence, et que dans les collèges, il y a quand même des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, donc déjà des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, se fermer, peut-être faire des portes pour faire du courant d'air, des stores, ben, il y a des améliorations qui auraient dû être faites il y a X et X années, et à chaque fois, quand il y a un problème, eh ben on dit on va faire, et rien ne se fait. Et que ça soit fait pour tous les établissements scolaires, pas que ceux qui sont dans certains endroits. Et puis, dans les EHPAD, on n'en parle même pas. Je veux dire, on a l'impression qu'avec, à chaque fois qu'il y a une canicule, et des fois ça peut être le froid aussi, mais on remarque qu'il y a des gens qui peuvent en mourir, qu'il y a un mal-être, il faut aller travailler. Ben oui, quand on est dans l'agriculture, on va travailler aussi, mais on arrange ses horaires. Mais à un moment, je veux dire qu'on prenne en compte l'existant, qu'on arrête, on a arraché des tas d'arbres dans les cours d'école, on a remis du goudron, après on a enlevé le goudron dans les parkings, mais c'était du n'importe quoi. Mais à un moment, quand est-ce qu'on va se poser, dire bon là il y a eu une canicule, il y en a eu plein d'autres, mais là on fait quelque chose.
Merci.
Parce que sinon là on arrive la bouche en cœur, tous en disant blablabla, on veut faire. Et puis, si la canicule s'arrête, ben on aura autre chose.
Merci beaucoup, Brigitte. Pardon de vous interrompre, mais le temps file et je voudrais laisser à Vincent Villiers le temps de vous répondre. C'est un peu ce qu'on disait au début. Vincent Villiers, on a pris du retard. Clairement, elle a raison. Notre auditrice, nous avons pris du retard. Au fond, on la découvre à chaque fois qu'elle tombe, la canicule. Alors, pas complètement, mais un peu quand même.
Et effectivement, on a pris du retard. Après, la situation est la même dans beaucoup de pays à travers le monde. C'est par exemple ce que il y a des rapports annuels des Nations Unies qui suivent les niveaux d'adaptation dans le monde et voilà qui concluent à ça parce que il y a un certain nombre de difficultés structurelles qui se posent. La première, c'est que tout ça nécessite des financements ou en tout cas ça soulève des difficultés, des réglementations à changer, des choses comme ça. Et que du coup, on n'a pas forcément envie de le faire.
C'est un peu ce que je disais aussi sur la carte postale, au fond, et se dire on ne va pas faire des toits blancs parce que ce n'est pas bon pour la carte postale parisienne, etc. Mais ça dit la même chose, au fond. Hein. Ça parle de réglementation.
Exactement.
Qui peut-être date un peu d'un autre âge.
C'est ça, exactement. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que plus exactement, le choix qui se pose à nous, qu'on a encore aujourd'hui, c'est agir en amont pour se préparer ou subir des conséquences. Mais qu'on n'a pas le choix de ni agir, ni subir des choses derrière.
Il nous reste une poignée de secondes, Vincent Villiers. Je posais la question à Grégory Doucet tout à l'heure sur les tours. Est-ce que l'époque des tours, quand il fait très très chaud, peut voir une fin? Sauf évidemment à y mettre la clim et, en étant à Dubaï. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on se dit qu'il y a désormais une forme d'architecture qu'on ne doit plus faire, qu'on ne fera plus parce que ce n'est plus adapté à notre climat ou pas?
Alors, comme le disait Grégory Doucet, on peut faire des tours tout à fait adaptés à des climats très différents. À des climats très chauds. Simplement, le coût n'est pas le même que faire des tours adaptés à un climat plus frais, parce que les techniques ne sont pas les mêmes, les vitrages ne sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, c'est plutôt une question de ce qu'on préfère, de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut collectivement essayer de maintenir des villes qui ont le même aspect que ce qu'elles avaient dans le passé?
Oui.
Ou est-ce qu'on veut modifier leur aspect pour que ce soit plus facile de les adapter au climat futur.
Et mieux vivre à l'intérieur de nos villes. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On a retenu que les musées étaient ouverts à Lyon pour essayer d'y trouver de la fraîcheur. Merci à tous également pour vos nombreux appels.